franceinter.fr.
Voici la rue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par un scrutin important.
Le référendum dimanche en Turquie, où les électeurs sont appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle qui renforcerait considérablement les pouvoirs du président Erdogan. Dans la revue 21, le reportage d'Emmanuel Carrère. Pour ne pas réitérer l'aveuglement dont nous avons pu faire preuve, par exemple face à l'élection de Donald Trump, l'écrivain n'est pas parti à la rencontre de tous ceux qui subissent déjà la férule de fer du nouveau sultan turc, ou tous ceux qui s'en inquiètent. En fait, tous ceux qui me ressemblent, confesse Carrère, non. Il est parti à la rencontre de ceux qui soutiennent le président turc. Retraité du textile, chauffeur de poids lourd, petit peuple d'Istanbul, convaincu, sincère et intransigeant. Qui défend contre toute vraisemblance l'intégrité du président, qui reprend sans faillir ses saillies contre les Kurdes, forcément terroristes, qui prend avec fatalisme la répression qui s'abat sur le pays et qui est fier de voir leurs dirigeants tenir la dragée haute aux arrogants européens. Forcément, Emmanuel Carrère, comme nous, a du mal à comprendre. Ils m'ont paru plus convaincus que convaincants, même si je suis facilement de l'avis du dernier qui parle, confesse-t-il. Mais ce qui me frappe, écrit-il, c'est à quel point la situation du pays tout entier dépend aux yeux de tous d'un seul homme, qu'on l'aime ou pas. En Turquie, la société n'a plus son mot à dire, constate-t-il. Le grand homme et le destin du pays, c'est Erdogan et lui seul. Il est espoir et malédiction. Mais le dialogue est rompu entre les uns et les autres. Voilà, le mythe du grand homme, du sauveur, a ses limites. Elles sont à l'œuvre en Turquie, pays asphyxié. Les petits soldats d'Erdogan, c'est écrit par Emmanuel Carrère, c'est-à-dire dans 21, le numéro de printemps.
Campagne présidentielle en France, on commence par un candidat en difficulté.
L'objectif maintenant, c'est de rester au-dessus des 5% pour obtenir le remboursement des 14 millions d'euros engagés dans la campagne. Mais de qui parle-t-on, d'un petit candidat? Franchement, rien de moins quand même que de Benoît Hamon, le candidat officiel du Parti Socialiste. Sur le site de l'Express, Ludwig Gallet raconte l'embarras, l'incrédulité et parfois la colère qui s'est emparée de son équipe de campagne depuis quelques jours. Pour elle, Benoît Hamon a déjà renoncé. Pour preuve, ses déclarations samedi soir sur France 2 où il répond sans hésiter que s'il ne devait pas passer le premier tour, il appellerait sans hésiter, sans barguigner, à voter Mélenchon alors qu'il aurait pu éluder. Pour preuve encore, ses confessions surprenantes sur RTL hier matin où le candidat faisait par avance le bilan de sa campagne énumérant tout ce qu'il avait plombé. Alors Libération ou encore L'Opinion ce matin affirme que Benoît Hamon, pour présenter ses 6 premiers mois de président, avait retrouvé la niaque hier matin en pilonnant ses adversaires Macron et Mélenchon. Enfin, à en croire l'Express, il n'y a plus grand monde qui y croit autour de lui. D'ailleurs, aujourd'hui en France, le Parisien se projette déjà dans l'après-défaite et nous annonce que le Premier ministre en personne, Bernard Cazeneuve, pourrait bien mener la bataille des législatives. L'opération aurait été validée par François Hollande au cours d'un déjeuner. Seul petit problème, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il abandonnait son fauteuil de député de Cherbourg pour devenir avocat. C'est un petit peu moyen pour être chef de guerre.
Un autre candidat n'est pas non plus au mieux de sa forme.
François Fillon, qui a pour le moins un petit problème avec les dates, sinon avec la vérité. Après avoir indiqué dans un premier temps que sa femme travaillait auprès de lui comme attaché parlementaire depuis 1997... Ah non, c'était 88, s'était-il ravisé, puis finalement c'était 86. Eh bien, Mediapart a révélé hier soir que c'est en réalité dès 1982 que François Fillon emploie son épouse comme chargée de mission à l'Assemblée nationale. Des contrats dont les policiers de l'Office anticorruption tentent de vérifier la validité. Les avocats du candidat confirment les informations du site, mais dénoncent une fuite à charge. Et puis décidément, François Fillon n'a pas de chance, même le soutenir n'est pas simple. Il faut dire que le patron des boulangeries Paul, propriétaire des macarons La Durée également, se l'est joué un petit peu patron old school. Samedi, Francis Holder publie sur le compte Twitter de François Fillon son soutien plein et entier au candidat, ajoutant « Je suis l'ambassadeur des 14 000 personnes que forme cette entreprise ». Sauf que ça tousse chez les salariés, nous raconte ce matin le Huffington Post, qui apprécie moyennement cet engagement collectif. Ça tousse aussi dans sa propre famille. Son fils David, qui dirige La Durée, se fend d'un communiqué pour se désolidariser de l'acte de foi de papa. Quant à l'épouse du patron, Françoise, elle est engagée, elle, auprès d'Emmanuel Macron.
Jean-Luc Mélenchon également à la une ce matin.
Mélenchon, le nouveau risque français, titre ce matin Les Échos, qui nous explique que la montée en puissance du candidat de la France insoumise commence à inquiéter les investisseurs. L'hypothèse du scénario noir, un second tour Le Pen-Mélenchon, a fait bondir le spread de 10 points. Le spread, c'est donc l'écart du taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne. C'est le programme fiscal de Jean-Luc Mélenchon notamment qui ferait frémir les marchés. Et il y a peut-être une explication à ça, c'est peut-être que les investisseurs ont trop joué aux jeux vidéo ce week-end. Le site Arrêt sur Image nous raconte comment des sympathisants bénévoles ont imaginé Fiscal Combat. C'est un jeu dont Mélenchon est le héros et dans lequel il fait les poches de Macron, de Gattaz, de Christine Lagarde ou encore de Liliane Bédancourt pour financer son programme. Alors le principe est simple, vous secouez un riche pour lui prendre son argent. Mais Jean-Luc Mélenchon aime-t-il, lui, être secoué ? Quand Philippe Poutou a décidé de tourner en dérision la façon dont il a été traité dans On n'est pas couché sur France 2, il parodie la séquence dans un de ses clips officiels de campagne et sincèrement, c'est grinçant, assez drôle. Mélenchon préfère lui jouer la politique de la chaise vide, en tout cas quand ça l'arrange. Pourquoi le candidat n'est jamais invité à l'émission phare en direct de Mediapart, s'interrogent les lecteurs du site. Eh bien François Bonnet, l'un des fondateurs du Pure Player, leur répond. Ce n'est pas que nous ne l'invitons pas, dit-il, c'est qu'il refuse systématiquement de venir depuis un an. Pourquoi ? Eh bien des explications du candidat, Mediapart comprend qu'il y a des inimitiés, des contentieux, voire des accusations de traquenard. Alors François Bonnet rappelle quelques règles essentielles du journalisme. Dans un entretien, les journalistes sont maîtres de leurs questions et les invités maîtres de leurs réponses. Les divergences de point de vue sur la nature du régime de Poutine ou sur la Syrie ne sauraient justifier un refus de dialoguer. Le leader de la France insoumise préférerait-il une presse soumise ? Sa stature de candidat à la présidence l'exonère-t-il de répondre aux questions les plus sensibles ? S'interroge à juste titre François Bonnet. Un petit mot, Patrick ? Rien du tout.
Non, c'est pareil pour nous. Jean-Luc Mélenchon choisit ses interlocuteurs, ses intervieweurs. Il refuse également nos invitations à France Inter, on l'a déjà dit ici. On termine avec un sujet qui tient à cœur à Augustin Trapenard tous les matins, qui est peu présent dans la campagne.
La culture, Patrick. L'Humanité en fait ce matin son dossier d'ouverture pour que la culture entre en scène et a demandé à des artistes ce qu'ils feraient s'ils étaient demain ministres de la culture. Réponse 2, Guillaume Meurice, humoriste à France Inter. Je m'engage sur l'honneur de Manuel Valls à offrir un stage de clown à chacun, à récompenser la mime Pénélope. Alors il y a plein d'autres propositions tout aussi sérieuses pour terminer par « Je m'engage à démissionner pour laisser ma place à François Morel ». Alex Vizorek, vous restez avec nous quoi qu'il arrive.
Moi je vais être secrétaire d'État seulement.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.